Je suis violoniste, j'ai repris la direction de l'ensemble il y a 3 ans, exactement. Et Philidor est un ensemble tourangeau de longue date. Et pour l'histoire la plus récente, nous sommes donc des musiciens qui faisons de la musique classique, essentiellement, du XVIIIe siècle, sur instruments anciens, ou des copies d'instruments anciens. Et donc, on est un petit peu des historiens de la musique, tout en la travaillant pour la donner à notre public contemporain. Donc, c'est un travail à la fois qui nous amène beaucoup dans les bibliothèques, on fait beaucoup de recherches, beaucoup dans les musées pour voir les instruments anciens qui étaient donc construits dans les époques pour lesquelles on porte notre intérêt. Et toutes ces recherches. Et puis, à la fois, on est tous sortis des académies, des conservatoires, il y a juste quelques années, dans un enseignement, qui nous amène jusqu'à la musique contemporaine. Donc, c'est intéressant pour nous, musiciens, de faire cet aller-retour constant entre
Entre
des
les deux.
sources anciennes et puis nous, aujourd'hui, et notre public qui est, contemporain et jeune.
Et alors vous dirigez l'ensemble du coup, comment vous êtes arrivé à Tours, à l'ensemble Philidor?
Eh bien, l'ensemble Vélidor, qui avait 20 ans justement à mon arrivée, a parcouru plusieurs phases justement de développement.
D'accord.
Et après avoir été un ensemble qui s'était dédié aux instruments à vent et au répertoire d'instruments à vent, à un moment donné, après 20 ans, c'est une bonne étape que de se dire on va explorer d'autres répertoires. Donc moi, étant violoniste, j'ai amené les cordes, mais non seulement. On a des collaborations avec des chanteurs. Et puis des marionnettistes, et puis des acteurs, notamment pour le concert qu'on vous propose le 7 novembre, il y aura un metteur en scène, un acteur, un chanteur, et voilà. Donc le champ s'élargit.
Et de façon à la base, l'ensemble Philidor est composé de combien de musiciens interprètes?
C'est à géométrie variable, comme on dit souvent de nos jours, hein, c'est-à-dire que ça varie de 2 à 20.
Ah oui.
Voilà, ouais, tout à fait.
D'accord.
Donc pour les plus grands projets qui réunissent plusieurs corps du métier, on arrive facilement à une bonne dizaine. Et puis ça peut aller jusqu'à une petite vingtaine de musiciens.
D'accord. Et vous, alors, Émilie, enfin, et toi, du coup, Émilie,
Oui.
tu es administrative de l'ensemble. Ça fait combien de temps que tu fais ce travail, du coup?
Alors, moi, je suis arrivée à l'ensemble Philidor en mars 2014, donc c'est et à Tours aussi par la même occasion. Donc, je suis une tourangelle d'adoption très récente. Et donc, je suis arrivée à Philidor après avoir travaillé bien sûr dans d'autres structures aussi, donc plutôt en région parisienne. Et pour prendre, enfin sur un petit peu sur la demande aussi de Mira pour prendre la direction de l'ensemble, la gestion de l'ensemble avec elle, hein, voilà, et soutenir ses projets.
D'accord, et c'est un remplacement où il y avait déjà quelqu'un avant qui s'occupait de ça, ou c'est quelque
Alors, il
chose
y
qui a été
a
créé après?
bien sûr depuis 92 qu'existe l'ensemble, il y a eu des administratrices dans le passé. Après, il y a eu une période, comme l'a dit Mira, une période de changement qui a donné lieu aussi à une phase où il n'y avait pas de salariés à l'ensemble, voilà,
D'accord.
pour être très clair.
Donc après vous êtes arrivé
Et voilà.
et voilà, depuis 2014.
Et voilà.
Donc les musiciens sont tous des professionnels, évidemment.
Oui,
Ils participent
bien
aussi
sûr. Oui.
À d'autres ensembles.
C'est un monde où tout le monde circule. Il y a beaucoup de musiciens qui viennent d'ailleurs, d'Australie, d'Argentine. Enfin, je vous rassure, ils habitent tous, pas forcément à Tours, mais en Europe.
D'accord.
C'est le fameux monde des intermittents du spectacle.
Voilà, le voyage. Et alors, moi, j'avais une petite question. Concerne la constitution du programme et des pièces que vous interprétez. Comment est-ce que tout ça se fait comment vous choisissez, qui est-ce qui choisit?
Alors, c'est moi qui choisis.
D'accord.
C'est un peu le rôle, vraiment la
Oui,
fonction,
du
disons, la
directeur.
plus claire de directeur artistique. Et ça répond souvent à ça part des coups de cœur, puis ça répond souvent à des demandes qui sont soit des demandes du public ou des organisateurs du concert ou des structures ou qui sont, on va dire, dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'après 20, 30 années de musique, de recherche, etc., on se dit, mais si on allait dans cette direction de l'Europe, dans cette bibliothèque, sur les pas d'un compositeur, justement, dont on a entendu parler, mais il n'est pas encore publié, il n'y a pas encore de choses qui ont été vraiment faites là-dessus. Donc nous, on est un petit peu dans cette mouvance de à la fois défendre les répertoires qui sont donc moins connus et à la fois, bien sûr, moins connus, mais qui valent la peine, on va dire. Donc cette recherche, disons, de l'intérieur et en même temps de l'extérieur, cette double casquette, on est forcé de l'avoir. Alors après, par rapport à... C'est pour ça que j'insiste sur la recherche, mais sur le but qui est de jouer aujourd'hui devant notre public à nous. Donc c'est très très important dans le choix des programmes et des pièces, notamment de la façon dont le programme se construit, de se dire devant un public d'aujourd'hui, qui peut être jeune, qui peut être moins jeune, qui peut être habitué ou pas du tout. Voilà, qui peut venir pour la première fois écouter un concert, de quelle façon est-ce qu'on présente les pièces pour qu'à la fois ceux qui connaissent soient nourris et soit qui découvrent aient envie de revenir.
Et alors, c'est vraiment ce que vous venez de nous dire, la découverte et l'envie, c'est vraiment la volonté artistique que vous voulez donner à votre programme?
Complètement. Je pense que sans un public, on n'est rien en tant qu'artiste. Donc, parfois, à des époques plus romantiques, on était très heureux rien que de créer pour soi, devant la mer, devant un beau paysage. J'y crois encore. C'est notre jardin secret. Par contre, l'art est fait pour être partagé. C'est ma conviction très, très forte. Et pour être partagé, il faut que nous, en tant qu'interprètes, soyons des traducteurs.
De cette
Aussi
musique.
proche de langage de ceux qui nous écoutent. Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes jamais venu à un concert classique, vous aimez pas. Pour moi, ça veut simplement dire que vous n'avez pas forcément eu l'occasion, pas forcément eu la bonne clé la bonne porte, la bonne clé pour la bonne porte, pour entrer, ou que c'était tout simplement pas le moment.
Voilà.
Voilà.
D'accord. Et j'ai vu que l'ensemble, Fildor, avait reçu en 2002, bon, alors après, aucune des deux était présente à ce moment-là, je crois. Mais le Diapason d'or, qui peut prétendre au Diapason d'or? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette récompense?
Dans le monde de la musique classique, c'est une importante, surtout en France, j'allais dire, parce que
D'accord.
c'est une revue française de critique musicale qui a une réputation faite déjà depuis longtemps de critique disons, ça vous met dans le top 1 ou 2 ou 5 de l'année de la musique classique. Donc c'est
D'accord,
important. C'est
d'accord.
important. Alors, d'autre côté, c'est une revue qui fait que le disque va être connu
C'est
et
le Diapason
vendu.
d'or. Enfin, il y a une revue en lien avec.
Le Diapason, qui s'appelle Le
D'accord.
Diapason. Et le Diapason d'or, c'est la récompense que cette revue accorde par mois, je pense, et puis par an. Enfin, il y a plusieurs étapes comme ça,
D'accord.
plusieurs échelons. Donc, c'est une belle marque de reconnaissance.
Et juste en plus de tout ça, l'ensemble est membre de plusieurs réseaux. Peut-être que du coup, on pourra en parler rapidement. Par exemple, la Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés. Enfin, du coup, ou alors le Syndicat professionnel des producteurs festivals, ensembles diffuseurs indépendants de musique. Ce sont des réseaux nationaux, enfin, auxquels on vous.
Alors, en fait, l'ensemble Philidor est adhérent donc à trois réseaux en fait essentiellement. Donc en effet, les deux premiers que vous avez cités, enfin que tu as cités, Profedim et Févis sont des réseaux nationaux.
D'accord.
Profedim, c'est simplement un syndicat, mais qui nous représente, je dirais, nous, toutes les petites structures artistiques indépendantes, que ce soit tous les ensembles, notamment les autres ensembles de Tours, Doulce Mémoire. Diabolus donc, sont également à Profedim, mais ça peut être également des centres de création, voilà, et nous représentent, je dirais, dans des termes politiques, en fait, voilà.
D'accord.
Pour défendre nos besoins et nos droits. Et voilà.
D'accord.
Ensuite, la Févis, c'est encore autre chose. Et là, c'est une fédération, donc c'est pas du tout un syndicat. Et là, on est sur un réseau qui apporte certes une visibilité et puis qui permet aussi d'aller à la rencontre via des rencontres professionnelles et de mettre en réseau, de mutualiser des besoins communs.
D'accord.
Voilà. Et ensuite, pour finir sur le réseau Victor, qui est quand même le réseau local des trois, je me permets de couper un peu la parole parce que c'est un réseau qui est, je dirais encore naissant, en fait, qui est le réseau de la culture et de la création en Val-de-Loire.
D'accord.
Auquel donc Philidor a adhéré... à sa création officielle, parce qu'en fait, ça fait déjà un petit moment que les fondateurs y travaillent. Et donc, c'est un réseau, je pense, auquel il faut s'intéresser et qui réunit de plus en plus de structures, donc notamment Tourangelle, mais voilà, le but est vraiment d'aller grandir sur le Val-de-Loire plus généralement, qui sont liées à la culture et à la création.
Et alors le réseau, par exemple pour le réseau Victor, qu'est-ce que ça vous apporte à l'ensemble ?
En fait, aujourd'hui, c'est surtout un souci d'aller à la rencontre des autres, surtout qui sont plutôt, on est tous, mais par exemple sur le réseau Victor, on parle quand même de structures aussi qui sont plus ou moins grandes, mais c'est pas forcément en tout cas des très grosses structures. Donc il y a d'abord aller à la rencontre des autres, prendre un bol d'air aussi de soi-même, aller à la rencontre d'autres idées, etc. Et dans l'époque actuelle, tout simplement un souci de mutualisation de moyens également,
tout à fait.
De mutualisation de voix aussi, de paroles. Mmh. Voilà.
D'accord. Eh bien écoutez, on va continuer à parler donc, de l'ensemble Philidor, bien évidemment, dans Sortez, et puis on va évoquer tout de suite la date du 7 novembre, donc, qui est votre concert à l'église Saint-Julien. Mais dans un premier temps, je vous propose d'écouter un premier extrait musical. Et donc, ça sera le prélude en la mineure pour violoncelle de Pissendel. Et on revient tout de suite.
Pour violon.
Pour violon ?
Violon seul.
Seul. Ah ! Violon seul. Pardon, excusez-moi. Et on revient tout de suite dans Sortez. Retour dans Sortez où je suis en compagnie de Mira et Émilie qui sont venues nous parler de l'ensemble Philidor. Et donc à l'instant, nous étions en train de présenter l'ensemble dans un premier temps, puis on en venait un petit peu plus au concert du 7 novembre donc à l'église Saint-Julien. Donc c'est un concert que vous allez donner dans le cadre du Festival des musiques anciennes, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Et donc, est-ce que vous savez depuis combien de temps le festival existe à Tours ?
Le Festival des musiques anciennes, alors... C'est pas vraiment un festival actuellement, ça va le devenir.
D'accord.
Très prochainement, grâce à l'association Nota Bene qui chapeaute toute cette organisation. Mais pour l'instant, on parle d'une saison de musique ancienne.
Oui, parce que c'est de septembre à juin, du coup.
Voilà. Oui. Donc, où chaque ensemble, donc avec le soutien de la ville de Tours, organise un concert. À partir de l'automne 2016, ce sera réellement un festival. Comme je viens de le citer, l'association Nota Bene, on sera l'organisatrice. Et voilà. Je trouve pas mal déjà.
Donc vous serez donc en présentation le 7 novembre. Et donc, est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de votre spectacle, ce que vous allez nous interpréter à
Bien sûr, bien sûr. Le mot est juste. Ça sera parce que ça serait plutôt un spectacle qu'un concert. Mm-hmm. J'avais imaginé une soirée vénitienne.
D'accord.
Et après, bien sûr, on se dit, on a la Loire, mais on n'a pas les canaux, on n'a pas les gondoles, mais on a les... Voilà, voilà. En même temps, dans une ville où il y a la présence de l'eau, on se dit que les gens rêveraient, viendraient volontiers avec nous en voyage, en promenade. Mmh. Et donc, par rapport à nous, à notre spécificité, comme je disais, les instruments anciens, le répertoire 18e et tout ça, bien sûr, c'est un monde rêvé, puisqu'à Venise... Elle était, c'était une république importante, magnifique depuis des centaines d'années. Et à la fin du 18e, elle commence un petit peu à décliner. Mais le moment qui nous occupe est encore bien, bien, bien éclatant, brillant pour cette ville. Donc, il y aura de la musique de Vivaldi. Tout le monde, ou à peu près tout le monde, voilà, connaît Vivaldi. Bon, on a d'ailleurs très souvent l'impression de connaître. Et alors, le défi que je me suis donné, c'est de donner à peu près des airs que jamais personne n'a entendu, ou très très peu, qui sont en tout cas pas publiés. Donc, même par rapport aux musiciens, difficilement accessibles. Et néanmoins, fantastique. Donc, des airs d'opéra. On sera 8 instrumentistes. Donc bien sûr une famille de violons, plus un basson, un clavecin, un archiluth et une D'accord. guitare, hein, puisque qui dit Venise dit guitare, qui dit Venise dit gondolier. Alors mon idée c'était donc à la fois de présenter de la musique savante, pas forcément connue, mais écrite par des compositeurs connus comme Vivaldi et Caldara, et de la mêler à des airs, des canzoni da battello, comme ils les appellent les Italiens, les chants de batelier. Alors, qu'est-ce que c'est que ces chants de batelier ? Nous, on les a plutôt connus comme barcarolles, ça c'est un mot qui résonne, qui est quand même entré dans le langage, grâce aux compositeurs du 19e siècle. Et alors là, de toute l'Europe. Pas seulement des Vénitiens qui ont écrit, parce qu'il y en avait moins d'ailleurs des compositeurs vénitiens au 19e. Mais alors donc des chants de batelier qui étaient chantés depuis le 15e siècle et qui sont encore chantés pour certains par les gondoliers. Tout le monde connaît, on les entend d'ailleurs quand on va maintenant à Venise, on est surpris, mais tout d'un coup on entend quelqu'un chanter dans la rue, on regarde et ce sont souvent eux qui chantent encore. Alors pourquoi des chants de gondoliers ? Parce que ça fait partie d'un répertoire populaire extrêmement fort, très identitaire à Venise et qui participait au temps du carnaval et puis durant toute l'année à la vie musicale et même à la vie, j'allais dire, théâtrale de cette ville qui est absolument hors norme. D'ailleurs, si vous y allez même aujourd'hui, en période du carnaval, qui dure certes moins qu'au 18e, parce qu'au 18e, ça durait 6 mois. Maintenant, c'est un petit peu lié aux vacances scolaires et à autre chose, bien pragmatique. Mais donc, voilà, on entend des chants de batelier. Donc, on a ces chansons qui viennent et puis... Le fil, disons, l'histoire de Venise sera racontée par un gondolier, qui sera notre ami, l'acteur Nicolas Godard, qui sera d'ailleurs mis en scène par Édouard Signolet.
Oui, voilà, j'allais y venir.
Voilà, qui est un jeune metteur en scène absolument brillant, avec lequel on a déjà collaboré, qui est très, très investi d'ailleurs dans plein de... d'action de culturelle et puis de pédagogique, etc. Et donc on sera avec un ami chanteur, hein, le ténor Reinhard van Mechelen, qui vient lui de Belgique pour l'occasion, pour nous chanter en tout cas à la fois des airs savants, les chants de batelier. Et le gondolier nous racontera une histoire de Venise, par contre, qui dépassera le 18e complètement, puisque les textes qu'on a choisis sont des textes écrits par des amoureux de Venise jusqu'à nos jours. Des écrivains, des peintres, des musiciens, certainement. Donc on entendra du Wagner, on entendra du Wagner en citation, au texte, pas forcément musique, puisque ça nous dépasse notre effectif de 10 musiciens, il faudrait être un petit peu plus nombreux. Et puis il y aura peut-être un peu du Rilke, du Nietzsche, de Goethe, de Jean-Jacques Rousseau. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je voulais juste vous faire une petite citation de notre Jean-Jacques, j'allais dire national. qui arrive en 1743 à Venise, était ambassadeur de France à Venise. Et alors, écoutez ce qu'il dit. En écoutant des barcaroles, je trouvais que je n'avais pas ouï chanter jusqu'alors. Et bientôt, je m'engouais tellement de l'opéra qu'ennuyée de babiller, manger et jouer dans les loges quand je n'aurais voulu qu'écouter, je me dérobais souvent à la compagnie pour aller d'un autre côté. Là, tout seul, enfermé dans ma loge, je me livrais malgré la longueur du spectacle au plaisir d'en jouir à mon aise et jusqu'à la fin. Un jour au théâtre, je me suis endormie et bien plus profondément que je n'aurais fait dans mon lit. Les airs bruyants et brillants ne me réveillèrent point. Mais qui pourrait exprimer la sensation délicieuse que me firent la douce harmonie et les chants angéliques de celui qui me réveilla? Quel réveil! Quel ravissement! Quelle extase quand j'ouvris au même instant les oreilles et les yeux! Ma première idée fut de me croire au paradis. C'est joli pour un Français qui arrive de Paris, qui venait d'entendre Rameau, Lully être baigné complètement dans la musique d'opéra, dans une France quand même quittée, enfin après Louis XIV et tout ça, c'était exceptionnel, et de se dire, je saurais que je n'avais pas ouï chanter jusqu'alors. Ça devait être vraiment extraordinaire d'être à Venise dans ces allées-là.
Donc c'est un peu ce que vous cherchez à mettre en valeur à travers ce...
Exactement, ce de se dire voilà, à la fois ce qu'un Vénitien et puis un voyageur, parce que Venise était aussi touristique, j'allais dire, que maintenant, à l'époque déjà. Ouais. Et, mais la découvrir à travers des écrits qui nous ont laissé vraiment des hommes du lettre qu'on connaît, qu'on étudie, qu'on adore tous et qu'on ne mettrait pas forcément à la relation avec Venise. Donc Nietzsche, par exemple, qui dit « Quand je cherche un synonyme à musique, je ne trouve jamais que le nom du Venise. » Maintenant, de la part du Nietzsche, on sait qu'il adorait Venise, mais tout de même, voilà. Je pense que ça nous permettra à nous aussi, parce que en plus, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'au 18e et même au 19e, des grandes personnalités ne connaissaient pas Venise. Ils ne sont jamais allés là parce qu'on ne voyageait pas, il n'y avait pas de low cost, il n'y avait pas d'avion tout court, il y avait
la mobilité, tout ça.
Ouais, complètement. Et donc ils rêvaient, mais ils ne sont pas allés. Donc, voilà. Et puis nous, par contre, je suis sûre que parmi les gens qu'on aura dans notre public, presque tout le monde, il y aura en tout cas beaucoup du monde, beaucoup plus du monde qui connaîtrait Venise. Mais la Venise d'aujourd'hui, certes.
Et en ce qui concerne plus du coup la représentation et le spectacle, est-ce que c'est la première fois du coup que vous allez interpréter cette pièce?
Oui, tout à fait. C'est une création à la maison, à Tours, que nous faisons, comme disait Émilie, avec l'aide de la mairie du Tours qui nous soutient. Et ils ont toujours la primeur. Et voilà, on leur doit bien cette fête à la maison, je trouve.
C'est vous allez le reproduire après ce spectacle sur d'autres dates ou...
Oui, pour le moment, on ne pourrait pas vous annoncer un calendrier précis, mais il sera certainement repris.
Ouais. D'accord. Je voulais en revenir par rapport à... Tout à l'heure, vous parliez des actions culturelles que vous mettiez en place aussi avec le metteur en scène, du coup. Et donc, j'ai vu, en effet, que vous aviez plusieurs programmes au niveau des groupes scolaires ou même des cours, ou je ne sais plus exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ce qui est cette partie en action culturelle de l'ensemble Philidor?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, disons qu'on a tout un volet d'activités pédagogiques. Voilà. On s'est pour l'instant concentré sur le public des scolaires, mais à tout niveau, en fait. Alors, cela se traduit par... C'est-à-dire que sur l'année 2014-2015, on a eu vraiment deux gros projets avec d'une part des lycéens qui devaient participer à la création de costumes sur un précédent spectacle qu'on a donné ici même à Tours il y a à peu près un an.
D'accord.
Ça a été un premier gros projet qui se poursuit finalement cette année aussi. Et puis, on a eu un autre très gros projet avec un collège à Cormery, le collège Sainte-Thérèse à Cormery.
À Vouvray.
À Vouvray, pardon, excusez-moi.
Cormery,
c'est encore autre chose. le collège Sainte-Thérèse à Vouvray, qui a participé en fait à l'écriture de contes musicaux. Donc les collégiens, c'était des élèves de 6e, 28 au total, je crois, ont écrit des histoires en fait qu'on a mis en scène ensuite. À la salle Télém, et c'était le tout entrecoupé de musique en fait. Et ils s'inspiraient des musiques qui étaient jouées pour écrire les histoires, en fait.
D'accord.
Donc, c'était vraiment le lien entre la musique représentative, l'écriture, la mise en scène, etc. Donc, ça, c'était un des gros projets phares de l'année dernière. Et puis, après, par ailleurs, bien sûr, on poursuit nos activités. Là, on a une répétition générale qui est ouverte à un groupe d'étudiants, par exemple, pour ce projet. On a fait en septembre des ateliers sur une école primaire à Cormerie, justement. Voilà, donc on essaye d'être assez investi dans la vie de la cité, en fait, globalement.
Mais c'est pas spécialisé en musique, vous voyez qu'il y a aussi du coup la fabrication de costumes ou quoi, c'est pluridisciplinaire du coup.
Voilà, ça se veut, comme nos projets d'ailleurs qui sont pluridisciplinaires, en fait, on souhaite vraiment nous ouvrir les arts en général. Donc bien sûr c'est via notre regard, donc c'est d'abord la musique, mais pour certains projets, donc ça a été le cas de ces deux gros projets, conte et création de costumes, nous avons fait intervenir pour la création un costumier, le fameux costumier de la compagnie L'Éventail qui a sablé sur Sarthe, Olivier Berriot, qui a travaillé notamment pour le cinéma aussi, donc ils ont pu le rencontrer, travailler avec lui aussi sur ce projet-là. Et pour la création de contes, on a fait intervenir Geneviève Hervier, qui est une conteuse actuelle tourangelle. Voilà, donc on travaille toujours. Et puis Edouard, bien sûr, qui est avec nous du coup depuis ce projet et qui est aussi intervenu dans les classes, à travers des ateliers, etc. Donc voilà, à chaque fois, on s'entoure de gens spécialisés dans d'autres domaines culturels. Nous, on apporte toute la partie musicale, et puis, bien sûr, on est à l'initiative de ces projets. Voilà.
Et on voit du coup que si vous avez quand même vous entouré de professionnels locaux, pour certains, enfin pour la plupart.
C'est ça, oui.
Et c'est aussi une volonté de l'ensemble de travailler avec des gens dans le local, des gens qui sont proches de vous.
Oui, absolument. Surtout que, Émilie, surtout qu'on, c'est vrai qu'on est, d'adoption plus ou moins récente toutes les deux, mais récente quand même. Et on est vraiment impressionnés, ravis de découvrir le vivier qui est à Tours.
Oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment hyper, hyper dense. Il y a beaucoup de choses. Et... Le 7 novembre à l'église Saint-Julien, c'est bien ça. Ça commence à quelle heure le concert le 7 novembre?
On vient de vérifier, c'est 20h.
20h, d'accord. Et donc, il faut réserver pour accéder au... J'imagine pour accéder au
Alors,
concert.
Alors, les réservations sont ouvertes, en effet. Donc, c'est soit directement par email, philidor@philidor.net, soit sinon, vous pouvez liker notre page Facebook et il y a un encart pour réserver directement en ligne, voilà.
Et alors, donc bien sûr, il y a la date du 7 novembre prochain, mais après, est-ce que vous avez de nouvelles dates, dont la région ou pas d'ailleurs ?
Dans l'immédiat, on va vous inviter un petit peu plus loin, on va vous inviter à Paris, à l'amphithéâtre de la Bastille, pour découvrir une production que nous aimerions beaucoup emmener à Tours, d'ailleurs, qui se fera peut-être dans un futur, on ne sait pas, très très proche ou un peu plus lointain, mais en tout cas le suyer. On va donner la parodie d'Hippolyte Arici. Donc ça, d'accord. C'est un spectacle pour musiciens, marionnettes, chanteurs, sur une musique de Jean-Philippe Rameau. Donc, Hippolyte Arici, d'après son premier opéra. Et c'est un spectacle que nous avons créé déjà en 2014, qui a beaucoup tourné. Et c'était une grande nouveauté sur les scènes, justement, de musique spécialisée, de musique ancienne, puisque depuis le 18e, quand c'était très fréquent de donner une parodie en pendant avec un opéra sérieux, ça, ce n'est plus vraiment fait. Donc c'est quelque chose qui est une petite forme, ça dure une heure et quart, quelque chose comme ça. Donc il y a à la fois les musiciens qui jouent sur scène de la musique d'opéra, qui dialoguent avec des marionnettistes qui sont avec une manipulation à vue avec des énormes marionnettes qui font un mètre, tout en bois, construites à Prague, absolument splendide. Donc le décor est très très baroque, très très beau. Et puis il y a des chanteurs qui prêtent leur voix aux marionnettes, qui chantent des airs absolument extraordinaires. Et tout ça pour une sorte de fiesta qui peut rappeler un peu ce qui était une parodie au 18e et au 17e même. Donc c'était une forme de théâtre comique, qui a précédé l'opéra comique d'ailleurs, auquel tout le monde était convié. Donc c'était souvent, on donnait à l'opéra. La tragédie Et un mois, deux mois après, paraissait la comédie italienne ou Théâtre de la Foire, la parodie, on venait rire, se moquer des personnages, pamphléter et tout ça. Et donc, voilà, c'est un... Les randonnées donc à Bastille au mois de février, c'est notre...
Les 12 et 13. Plusieurs dates,
ouais. Voilà, 12 et 13 février.
Et j'avais vu que vous aviez eu quelques dates à l'international, enfin au moins en Europe, où vous allez continuer à faire...
On repart à l'international avec Hippolyte Arici, on va en Allemagne en 2015... À Halle, au théâtre Bernburg. Ouais.
D'accord.
Voilà. Et mais en effet, on l'a déjà donné en Chine et puis à Malte.
Très bien. Donc ça, l'ensemble fait le tour.
Ça
du
tourne.
Monde. C'est ça. Et bien super. On rappelle quand même aux auditeurs une dernière fois que donc, le 7 novembre à l'église Saint-Julien à 20h, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. On peut réserver au téléphone aussi, je crois.
Par téléphone, par email.
Via
Facebook. Et n'oublions pas également que les étudiants ont un tarif PCE de 5 euros.
D'accord. Eh bien, très bien. Eh bien, merci, mesdames, d'être venues nous parler de l'ensemble Philidor et puis du spectacle que vous allez donner dans le cadre du Festival des musiques anciennes. Bon concert, bonne continuation. Puis à très bientôt sur Radio Campus.
Merci.